quatrième et dernier temps de notre série consacrée au Second Empire à l'occasion de l'exposition spectaculaire Second Empire qui vient d'ouvrir au musée d'Orsay à Paris. Et Canaïs Quien et Françoise Camard vous ont fait visiter dans l'émission d'hier. Après avoir évoqué lundi les fastes de la cour, puis avoir pénétré les secrets politiques, culturels et sociaux d'un bal sous le Second Empire, c'était le documentaire de mardi, nous vous proposons ce matin de se poser la question de ce que fut vraiment ce régime avec nos deux invités, Éric Anceau, maître de conférence à Paris-Sorbonne et enseignant à Sciences Po, qui après avoir vu dans Napoléon III un Saint-Simon à cheval, je le cite, prépare pour décembre un livre sur l'Empire libéral. Et nous aurons également avec nous Jean-Claude Dion, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Saint-Quentin, en Yvelines, Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et il a participé au catalogue de l'exposition du musée d'Orsay et organise un colloque les 24 et 25 novembre dans le cadre de cette exposition autour des regards sur le Second Empire. Mais tout de suite, vous le savez, depuis la semaine dernière, un nouveau feuilleton dans la fabrique de l'histoire qui se demande comment on enseigne l'histoire en France dans nos classes, du primaire au lycée. Et aujourd'hui, eh bien, Séverine Yatard nous conduit en cours d'éducation morale et civique dans la classe de 6e du collège Edgar Varèse dans le 19e arrondissement de Paris.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Les dates, c'est un empire, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Les dates, c'est un pyro, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Fabien Jouan, ça va être un cours un petit peu particulier, c'est les sixièmes, hein, les petits.
Alors c'est la rituelle élection des délégués qu'on effectue chaque année à la fin du mois de septembre. Alors l'idée, ça a été de transformer ce moment en leçon d'enseignement moral et civique, d'EMC. Hein. L'EMC, c'est ce qui remplace l'éducation civique. Donc on est dans une salle de classe réaménagée avec des isoloirs, une urne, il y aura des fiches d'émargement, on va leur expliquer comment est-ce qu'on vote et on va essayer le plus possible de reproduire ce mode de fonctionnement. Voilà, donc on va transformer ce moment en une sorte de belle leçon, hein, d'éducation civique. Allez, vous installez tranquillement, s'il vous plaît. Allez, j'attends le silence. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà. C'est une séance un peu particulière aujourd'hui, puisqu'on va faire l'élection déléguée. Mais Jules, tu peux m'expliquer ce que tu fais par terre? Alors, j'aimerais juste que vous me rappeliez, s'il vous plaît, hein, quelles sont les missions du délégué de classe. À quoi va servir le délégué de classe en 6e 3? Imen.
C'est, par exemple, moi, il y a les personnes de la classe qui me disent tous leur idée. Et par exemple, s'il y a une réunion, je peux les dire. Et si ça peut se faire, ça peut se faire. Et si ça peut pas, ça peut pas.
On va relier, rassembler un certain nombre d'idées et demander à quelqu'un de les transmettre à votre nom. Oui.
Les porte-paroles.
Porte-parole, voilà, il est porte-parole. Il va représenter la classe, hein, lors des différentes instances, notamment lors du conseil de classe. Donc c'est une vraie responsabilité, hein, qui vous est confiée. Hein. Donc il faut le faire sérieusement. Il faut que ce soit une personne de confiance, une personne sur qui on peut compter. Alors, quelle est la condition pour être élu dès le premier tour? Salut Matin.
Faut avoir la moitié plus plusieurs votes.
Oui, comment est-ce qu'on appelle ça? La majorité
absolue.
Absolue, très bien. Bon. Autrement, s'il n'y a pas deux candidats qui se détachent, il y aura un deuxième tour. Et lors de ce deuxième tour, les délégués seront élus à majorité relative, ce qui signifie...
Ouais. C'est quand on a le plus de voix.
Ce seront voilà, les candidats qui auront obtenu le plus de voix au deuxième tour, qui seront élus délégués. D'accord. Alors, on va commencer. Amaury, ton rôle, ça va être de faire bien attention à ce que chaque candidat mette bien son bulletin dans l'urne et uniquement un bulletin. Tu surveilles ça. C'est ton rôle, c'est ta mission. Je compte sur toi. Meysem, alors, la liste d'émargement, elle est où? Toi, tu vas bien faire attention à ce que tout le monde signe bien. D'accord? T'as compris? Bon. Les bulletins de vote sont dans l'isoloir. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez dans l'isoloir. Vous notez le nom de votre candidat. Vite fait, hein. Vous y passez pas l'heure. Hein. Ensuite, vous allez mettre votre bulletin dans l'urne. Vous signez. Et vous allez vous asseoir. Tout le monde a compris ou pas?
Oui.
Bon. On peut y aller dès maintenant? Silence complet.
Yasmine. Sélimateur. Yasmine. Warren. Warren. Vote blanc. Warren. Warren.
Donc, Meysem, quels sont les deux délégués de classe de la 6ème 3, ceux qui ont obtenu une majorité donc relative au deuxième tour?
C'est Yasmine et Warren.
Est-ce qu'on respecte la parité?
Oui.
Parfait. Voilà, très bien.
Voilà pour ce deuxième épisode de notre série qui continuera toute l'année et tous les jeudis matins. Donc un feuilleton concocté, préparé par Séverine Yattard qui ira voir comment, au-delà des fantasmes, on enseigne l'histoire, la géographie et également l'éducation civique, comme vous venez de l'entendre, dans nos classes. Et là, en l'occurrence, c'était une classe de 6e du collège Edgar Varèse dans le 10e arrondissement de Paris. L'apprentissage du vote, eh bien, on s'est dit et on se dit aujourd'hui, quand on regarde le Second Empire, que c'est un moment particulier. Bonjour Jean-Claude Dion.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Éric Anceau.
Bonjour.
On dit souvent, effectivement, et c'est ce que disaient des gens très bien, par exemple Karl Marx, que effectivement c'était un coup d'État qui avait instauré ce régime et que, en l'occurrence, bourgeois et épiciers s'étaient aperçus que dans l'un de ces deux décrets du 2 décembre, Bonaparte abolissait le vol secret et ordonnait aux électeurs d'inscrire dans des registres officiels oui ou non en face de leur nom et qu'il avait été obligé de reculer. Donc en 1851, effectivement, cette période de presque 20 ans du Second Empire est une période dictatoriale, on en discutera tout à l'heure, mais en tout cas autoritaire au minimum, mais qui voit les Français s'accoutumer à cette question du vote, même s'ils votent pour des candidats officiels, Éric Anceau.
Tout à fait. Alors on a démarré par un petit récit sur le collège, une légende noire autour du Second Empire, une légende noire qui a été véhiculée en grande partie par la Troisième République qui avait besoin de s'affirmer. Je renvoie ici au petit Lavis. Lavis avait été le précepteur du prince impérial et il est le grand Manitou de l'histoire sous la Troisième République, le Malaisac également. Et puis le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse en 1874, je me permets de le citer, sous ce règne néfaste qui commença par un crime, continua par la suppression de toutes les libertés publiques et se termina par une capitulation honteuse, Paris devint uniquement une ville de plaisir et d'affaires. Alors tout ça y est indiscutablement.
Voilà, on ne peut pas dire que ça n'y est pas.
Beaucoup parler politique, il y a un coup d'État, il faut évoquer bien sûr ce coup d'État, mais le Second Empire n'est pas que ça. Il y a, vous l'avez dit, un apprentissage du suffrage universel qui se fait par une récurrence, une régularité des élections tout au long du régime.
Alors, pour avoir lu Alain Garrigou ou d'autres, effectivement, on sait que ce n'est pas le début c'est le début du vote secret. Le vote secret existe depuis la Révolution française, mais ce vote secret ne se passe pas dans un isoloir, comme on vient de l'entendre. Ça ne sera qu'au début du XXe siècle que ça sera le cas. Mais effectivement, il y a donc dans les campagnes françaises, un peu partout en France, effectivement, un apprentissage du vote qui a redémarré de façon très large en 1848 et qui continue pendant ce Second Empire. De quelle manière, justement, ces votes se font-ils? On sait, pour avoir lu Éric Philippot ou d'autres, effectivement, comment on se fait élire avec son beau travail sur le baron de Macau, par exemple. Comment on se fait élire quand on est légitimiste, qu'on passe ensuite du côté du bonapartiste avant de se faire élire et également pendant la Troisième République. Mais comment vote-t-on, Éric Anceau, pendant ce Second Empire, selon que l'on est au début ou à la fin du Second Empire?
Alors le vote est extrêmement encadré. Il est encadré par une pratique qui s'appelle la candidature officielle. Les candidats sont choisis par le préfet. Dans les cas les plus importants pour les députés, parfois l'empereur carrément donne son mot. Et toute l'administration, depuis le préfet au sommet jusqu'au garde champêtre à la base, sont mobilisés pour faire l'élection.
Faire l'élection, ça veut dire faire élire les candidats officiels.
Faire élire les candidats officiels. Je rappellerai peut-être simplement qu'au corps législatif, le premier, celui qui est élu en février-mars 1852, vous avez 252 élus, et sur les 252 élus, vous en avez 247 qui sont élus avec la candidature officielle. Donc ça vous donne une idée de la pression qui pèse sur les électeurs. Un élément de cette pression absolument fondamentale, et vous l'avez souligné, c'est que le vote n'est pas secret. Vous remettez, pliez votre bulletin au président du bureau de vote, et celui-ci peut ouvrir votre bulletin. Dans des petits villages, imaginez la pression que ça peut représenter pour l'électeur.
Il ne doit pas le faire théoriquement, mais il peut le faire.
De multiples cas montrent, parce que vous avez toute une procédure post-électorale qui est déjà développée avec le Conseil d'État qui vérifie, qui montre que les abus sont absolument multiples dans toutes les élections, des élections municipales jusqu'aux élections législatives. Alors cependant, si je puis me permettre, vous avez une évolution du régime qui fait qu'avec justement l'implication du Conseil d'État dans les années 1860, puis de la volonté même de l'empereur, qui libéralise son régime, puis qui abandonne la candidature officielle en 1870, à l'extrême fin du régime.
Oui, c'est ça.
Les extrêmes fins 1870, le régime chutera le 4 septembre 70, les élections deviennent libres.
Jean-Claude Dion, sur cet apprentissage lent de la démocratie, même sous un régime autoritaire, voire dictatorial.
En tout cas, on voit vraiment que le suffrage universel est à la base du régime. Ça, c'est un point très important. Donc, un suffrage manipulé, on vient de le comprendre, mais le suffrage universel quand même. Vous avez rappelé le décret qui accompagne le coup d'État. Le décret, en fait, rétablit aussi le suffrage universel intégral qui avait été en partie limité en 1850 par la Seconde République dans sa phase conservatrice. Et donc, ce suffrage universel, il permet de comprendre une des bases du régime qui est vraiment cette alliance entre le souverain et le peuple, un peu par-dessus les élites. Et il y a un positionnement très particulier du régime et de Napoléon III et ce rapport aux masses, parce que je pense que les masses et les prémices aussi de la culture de masse dont on parlera sont un élément qui caractérise la période.
Oui, alors effectivement, on voit bien ce rapport dans des textes qui ont été travaillés par exemple par Juliette Glickman qui travaille sur ces questions-là. La France gémissait, prince, dans les douloureuses étreintes du socialisme et elle était près de défaillir sanglante et mutilée. C'est l'adresse de la commune de Seixles en Corrèze, au souverain, donc à Napoléon III en octobre 1852. Et on voit bien aussi que de son côté, Napoléon III a l'intention de faire de ce lien particulier au peuple la façon dont il conçoit son propre pouvoir, Éric Anceau.
C'est tout à fait vrai. Napoléon III est l'homme de la synthèse entre l'ancienne France et la France nouvelle.
On avait déjà dit ça de Louis-Philippe tout de même. On avait déjà dit la même chose de Louis-Philippe pour son régime qui se voulait justement la synthèse entre les deux. Et le musée de l'histoire de France de Versailles en est le témoignage en l'occurrence. Donc d'une certaine façon, après l'interruption qu'a été la révolution de 1848, il renoue avec cette tradition de vouloir synthétiser l'ancienne France et la France nouvelle.
Exactement. Les Orléans, donc Louis-Philippe, et les Bonapartistes, donc Napoléon III, appartiennent à cette France bleue, cette France de 1789. Avec une différence majeure, c'est que Louis-Philippe est l'homme de la souveraineté nationale, la médiation des élus, le parlementarisme, là où Napoléon III, héritier, alors on pourra en discuter, de Napoléon, est l'homme de la souveraineté populaire, donc de la démocratie, du césarisme démocratique, expression inventée par l'un de ses proches, le jurisconsulte Trollon, qui présidera le Sénat.
Jean-Claude Dion.
Et oui, c'est la grande différence. Le régime, au départ, se veut démocratique, mais sans passer par la casse parlementaire, par le parlementarisme. Donc c'est une autre façon d'expérimenter la démocratie. Mais il est vrai, il faut pas oublier que la Constitution de janvier 52, par exemple, se réfère expressément aux acquis de la Révolution française. Donc il y a une espèce de relecture de l'histoire nationale, avec la même volonté de synthèse que Louis-Philippe, mais en prenant d'autres choses, et qui fait tout l'originalité, parce que ce qu'invente Napoléon III, c'est un système complètement original qui commence avec lui et qui s'arrête avec lui.
Oui, et tout de même, un système dans lequel il veut renouer avec certains aspects de l'ancien régime, les rois thaumaturges qui ont été si bien étudiés par Marc Bloch, il s'en considère comme étant une sorte d'héritier, nous dit par exemple Julia Glickman, parce qu'il est une sorte de prophète élu, avec cette espèce d'oxymore. Comment peut-on être un prophète et être élu par son peuple, en l'occurrence Éric Anceau?
Exactement, c'est toute la contradiction du Second Empire qui éclatera au moment de l'Empire libéral, et les Républicains, et en particulier Gambetta, feront fond justement sur cette contradiction absolument majeure. Juliette Glickman a très très bien montré, peut-être celle est la première à le faire d'ailleurs, que Napoléon III s'inscrit également dans la tradition d'Ancien Régime. Alors parmi ses grands modèles, un Charlemagne, mais également un Louis XIV. Donc vous voyez, il y a cet ancrage également historique.
Alors, quand il souhaite donc à la fois rétablir le vote mais le contrôler, qu'est-ce qu'il veut mettre à l'écart d'une certaine façon, Jean-Claude Dion? On a lu cette adresse au prince donc de 1852 venant d'une commune de Corrèze disant que le pays était pris dans les douloureuses étreintes du socialisme. On imagine et on voit chez lui, en l'occurrence chez Napoléon III, on voit cette prétention à vouloir travailler avec un peuple, mais également travailler le peuple pour qu'il ne soit pas travaillé par d'autres.
Il y a en tout cas déjà vraiment cette lutte féroce contre le socialisme, et on a évoqué le coup d'État, la répression est quand même particulièrement forte, et si on pense par exemple à cette aberration que sont les commissions mixtes qui mêlent l'armée, l'administration, le pouvoir judiciaire, on est revenu au cours prévôtal de la Restauration aux pires heures. Donc il y a vraiment une lutte contre l'extrême gauche, une volonté de faire disparaître une bonne partie de l'héritage de la Seconde République, mais pour reconstituer une autre valorisation de la souveraineté nationale et une autre façon d'incarner la nation.
Oui, expurger les sinistres aberrations, marginaliser les doctrines anarchiques, Éric Anceau, au prix tout de même d'une prise de pouvoir, et là on y insiste, mais il faut toujours y insister quand on parle de ce régime, dictatorial, de réduction des libertés, d'expulsion ou de départ des opposants à l'étranger pour de très longues années. Donc ça, c'est tout de même la macule originelle, disait Marx à propos de ce régime.
Effectivement, c'est la macule originelle. Il ne faut jamais oublier que le 2, le 3, le 4 décembre, le sang a coulé dans les rues de Paris. Alors, le bilan chiffré varie, mais sans doute un millier de victimes. En province également, on se soulève. Je renvoie à la conquête de Plassans d'Émile Zola, qui décrit de façon documentée ce qui a pu se passer dans une petite ville de province. Et Napoléon III, bien évidemment, doit tenir compte de ses oppositions, donc une main de fer durant les 10 premières années du régime.
Oui, et le Var en particulier, ou d'autres départements particulièrement touchés par cette répression. Alors on se demande tout de même, et c'est là où il est intéressant de voir les travaux historiques récents, Jean-Claude Dion, vous allez donc organiser un colloque les 24 et 25 novembre dans le cadre de cette exposition au musée d'Orsay qui s'intitule « Regard sur le Second Empire »,« Nouveau regard sur le Second Empire ». On se demande tout de même comment, avec un régime aussi autoritaire, avec une prise de pouvoir aussi sanglante, progressivement, des républicains ont pu poser leurs billes, avancer leurs billes dans ce contexte-là, et donc progressivement, non pas prendre le pouvoir, parce que le pouvoir ne sera pris qu'après la chute du régime donc, et la défaite de Sedan, mais en tous les cas, avancer leurs idées dans le cadre d'un régime aussi autoritaire.
Alors vraiment, quand on parle du Second Empire, il faut toujours avoir la chronologie bien en tête, parce que comme l'a rappelé Éric Anceau, on a cette décennie 1850 extrêmement répressive, mais comme le remarquait François Furet, avec le Second Empire, on a, je le cite, un exemple exceptionnel d'une dictature qui se libéralise par la volonté du dictateur. Et effectivement, le processus dans lequel s'engage Napoléon III à partir des premières réformes 1860-61, qui consiste effectivement notamment à redonner du pouvoir au Parlement, alors que tout son système était bâti en quelque sorte contre la représentation parlementaire, et puis tout ce qui va se faire et qui va s'accélérer, notamment à partir de 67-68, va permettre de nouveaux moyens d'expression, et même pendant la dictature, qui est quand même terrible, et il faut juste citer aussi le décret sur la presse, hein, et
ah oui,
notamment ce système extrêmement pernicieux des avertissements, qui instaure une forme d'autocensure, puisque les journalistes savent très bien que lorsque leur journal a deux avertissements, ils peuvent en obtenir un troisième, et du coup le journal disparaît et c'est la faillite. Donc même pendant la dictature, on voit quand même des mécanismes qui permettent à l'opposition de s'exprimer, et donc le régime lui-même a engagé sa transformation, ce qui est assez exceptionnel.
Et vous êtes vous-même, Jean-Claude Dion, un historien des spectacles, un historien du théâtre, un historien de toutes les modes de représentation, justement dans ce deuxième 19e siècle. Comment justement cette volonté autoritaire, dictatoriale s'exprime-t-elle dans un premier temps, et comment, entre guillemets, se libéralise-t-elle dans la deuxième partie du régime aux alentours de 1864-1865?
Alors, on a bien sûr la censure qui fonctionne également pour les théâtres et qui est particulièrement sévère, mais cette censure va évoluer. Et par exemple, le grand succès de l'exposition universelle de 1867, c'est la reprise d'Hernani de Victor Hugo à la Comédie Française. Donc naturellement, le répertoire de Hugo, le grand adversaire, était interdit depuis le début du régime. Et en même temps, on va autoriser cette reprise qui va avoir un succès énorme. De la même façon, Napoléon III va décréter en 1864 ce qu'on appelle la liberté des théâtres. Donc il va enlever à l'État une partie du contrôle administratif des spectacles.
C'est le décret du 6 janvier 1864.
Et en fait, on voit là un élément qui, je pense, et j'espère qu'Éric sera d'accord avec moi, caractérise bien ce régime, qui est vraiment un caractère d'exploration, de tenter des choses nouvelles, aussi parce que une partie des gens au pouvoir ont eu des parcours un peu différents. Napoléon III est quelqu'un quand même qui découvre véritablement la France en 1840 lorsqu'il revient d'exil. Et donc, il y a des choses absolument incroyables que les autres régimes n'auraient pas fait, que le pouvoir fait aussi parce qu'il n'a pas d'opposition et qu'il en profite. On peut penser au libre-échange aussi, au traité de libre-échange qui n'est pas passé par le Parlement et qui est passé par une voie diplomatique. Donc le régime a une capacité de tenter des choses, d'ailleurs souvent en n'allant pas vraiment au bout et en s'arrêtant, mais qui est quand même assez remarquable.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et vous écoutez le dernier temps de notre série consacrée au Second Empire avec nos deux invités, Jean-Claude Dion et Éric Anceau, et nous débattons de savoir quelle était la nature exacte de ce régime avec les derniers travaux des historiennes et des historiens sur cette époque, sur cette période, en écoutant un extrait du Don Carlos, le ballet de la Reine de Verdi, qui a été donc créé, je crois, en 1867, si je ne me trompe,
c'est ça, Jean-Claude Dion? Oui, pour les deux expositions universelles, le régime a eu le bon goût de commander un opéra à Verdi, donc les Vêpres siciliennes en 1855, et puis donc Don Carlos, en 1867. Juste un mot pour dire que Napoléon III a aussi imposé Wagner à l'opéra avec le Tannhäuser, alors qu'il a été un échec terrible. Mais voilà, ça fait partie de ces expérimentations. Wagner, on lui donne le moyen de monter une œuvre à Paris.
Parce que il faut reconnaître aussi, Jean-Claude Dion, et je donnerai la parole ensuite à Éric Anceau, il faut reconnaître que si Napoléon III n'a pas une culture théâtrale très développée avant de d'arriver au pouvoir, il va voir 750 spectacles pendant son règne. Donc il n'y va pas parce qu'il aime le théâtre, il y va, ni l'opéra, il y va parce qu'il croit ou il croit comprendre qu'il est important qu'un souverain comme lui se montre au spectacle dans une période qui est spectaculaire, comme le dit le titre cette exposition.
Alors là, vous me lancez un peu sur mes vieilles marottes, savoir la dramatocratie et autre chose.
Dites-le, c'est important ce que c'est que le passage de la dramatocratie, dites-vous, d'un côté, à un autre régime qui serait le régime de la société du spectacle, non pas théorisé par Guy Debord, mais par vous.
Se fait sous le Second Empire, où en fait la dramatocratie, c'est une société où le théâtre est au cœur de l'opinion publique, et Napoléon III a encore cette idée en tête, et en allant au spectacle et en étant donc dans les avant-scènes, c'est-à-dire en voyant pas du tout le spectacle mais en étant visible pour l'ensemble des spectateurs, il établit ce contact avec ses citoyens, avec les électeurs, et en même temps donc sous le Second Empire, et c'est aussi un élément passionnant à étudier, se développent toutes sortes de formes, d'autres formes de spectacle, notamment le café-concert, c'est le début de la variété, de la chanson.
Café-concert où on peut mettre son coude sur la table, boire un coup en même temps qu'on voit le spectacle, alors que ça n'est pas possible au théâtre.
Exactement.
C'est la création du Bataclan en 1865.
Oui, 1865, Bataclan qui en fait reprend le titre d'une opérette d'Offenbach, une chinoiserie musicale d'Offenbach, qui est en même temps d'ailleurs une passionnante réflexion sur la dictature. Donc si vous voulez réfléchir aussi au Second Empire, écoutez Bataclan. Offenbach est toujours beaucoup plus profond qu'on l'imagine, mais je le laisse de côté. Donc effectivement, le café-concert, le cirque aussi, c'est peut-être un des lieux du Second Empire les plus magnifiques, c'est le cirque d'hiver, cirque Napoléon, qui a été construit en 1852. Et donc monter en puissance de toutes ces nouvelles formes de spectacles qui sont destiné à un large public, puisqu'on est vraiment, on le disait tout à l'heure, à l'époque de la prémisse ou des prémices de la culture de masse.
Oui, alors Éric Anceau, on voit bien une société qui est cadenassée, tenue par le régime politique dans la première moitié de ce régime donc du Second Empire, et puis qui petit à petit trouve des marges. La question, quand on s'intéresse à l'histoire politique, c'est de savoir si la société trouve des marges par elle-même, si elle trouve des marges par, c'est ce que disait Jean-Claude Dion tout à l'heure, une sorte d'acquiescement volontaire du souverain. Quelles sont les marges de manœuvre de cette société, de la politique par le bas, d'une certaine façon, analysée par Maurice Aigulon, et comment parvient-elle, cette société, à trouver des places, à trouver des endroits où elle peut s'exprimer alors qu'il était auparavant interdit de s'exprimer?
Alors je dirais que les deux phénomènes sont liés. Vous avez cette politisation effectivement par le bas, et il y a des avancées historiographiques récentes qui ont confirmé tout ce que disait Maurice Aigulon voilà 30 ou 40 ans. Et puis il y a la volonté du souverain. Alors sur ce qu'a dit Jean-Claude, je conforte ses propos. J'ajouterais également que la guerre d'Italie a joué un rôle très important, parce que la guerre d'Italie a détaché en fait du pouvoir des catholiques, que très vite on va appeler les cléricaux, donc qui s'investissent sur la scène politique et qui constituaient l'ancienne majorité de Napoléon III. On parle pour les années 1850 d'une alliance du trône et de l'autel. Et puis il y a ce fameux traité avec l'Angleterre de 1860 qui va détacher en fait de Napoléon III une grande partie du patronat qui à l'époque est protectionniste et qui ne veut pas de ce traité de libre-échange. Et les patrons étaient également du côté du pouvoir. Donc je dirais que la perte de ces soutiens traditionnels, que sont d'une part les patrons et d'autre part les catholiques, les élites catholiques, nécessite pour Napoléon III de changer de politique, de libéraliser son régime. Mais comme vous le disiez vous-même, les amnisties qui ont eu lieu en 1859, au lendemain de la guerre d'Italie, la reprise, de contrôle par les masses des élites républicaines, font que par la base également, le théâtre, on a évoqué les loges maçonniques étudiées par Sudhir Hazarezing et Vincent Wright, vous avez cette poussée par le bas, effectivement, et l'organisation du monde ouvrier, oui, avec la loi de 1864 sur les coalitions, qui permet aux ouvriers de s'organiser et donc de revendiquer aussi.
En fait, on pourrait dire...
Jean-Claude Dion.
Éric me dira s'il est d'accord avec moi. Toutes les tentatives de libéralisation qui cherchaient à attirer au régime de nouveaux soutiens ont en fait servi avant tout à l'opposition, à renforcer la lutte. Donc cette volonté de libéralisation a été un échec total dans cette volonté du souverain de s'amener de nouveaux soutiens, parce qu'au contraire, c'est vraiment à chaque fois de façon très habile les républicains et l'opposition, voire aussi d'ailleurs l'opposition monarchiste qui l'a emporté, qui les a utilisés.
Et pourtant, ça n'est pas si simple d'être républicain sous le Second Empire. Vous préparez, Éric Anceau, un travail que vous avez publié en décembre autour de la figure d'Émile Ollivier, bien oublié aujourd'hui. Faut dire qu'il n'a pas eu le pouvoir très longtemps. Il est nommé au tout début de 1870 et la défaite vient signer l'échec de son gouvernement. Voilà quelqu'un qui républicain sincère, nous expliquez-vous, va progressivement s'accommoder du régime jusqu'à devenir un renégat. C'est ainsi comme que l'appelle, y compris des gens qui lui étaient, qui étaient très proches de lui, comme Gambetta, dans les années 1863, 64, 65 et jusqu'en 1869. Donc au moment où il va tenter de prendre le pouvoir et conquérir ce pouvoir avec l'aide de Napoléon III au tout début de 1870.
Tout à fait. Alors, Émile Ollivier est un républicain de tradition familiale. Son père, Démosthène Ollivier, était l'un des 48ards.
Ça, c'est assez formidable d'avoir un père qui s'appelle Démosthène, quand même. Déjà, c'est pas mal.
La tradition, l'histoire grecque, les humanités. Mais Émile Ollivier, avant d'être républicain, est un libéral. Et les grands modèles, en fait, quand on les regarde d'Émile Ollivier, c'est qui? C'est Mirabeau.
Et Benjamin Constant.
Benjamin Constant, qui lui-même s'était rallié à Napoléon pendant les 100 jours. C'est Lamartine. Donc des hommes du compromis. Et c'est à partir du moment où Napoléon III va commencer à accorder des libertés que Émile Ollivier, se rendant compte que l'empereur est sincère, va se rapprocher de lui pour fonder cet empire libéral. Alors, ce qui est très intéressant dans l'empire libéral, c'est que les républicains sont très forts et très hostiles pendant cette période-là, mais en revanche, il réussit à renouer le contact avec les fameuses élites, les élites orléanistes, les élites bourgeoises.
Quand il monte un gouvernement en 1870, il n'y a pas un seul républicain dedans tout de même. Il est le seul ex-républicain ou proche des républicains. Il a été en tous les cas auparavant. Il a des orléanistes, il a des légitimistes, mais il n'arrive pas à convaincre quelques républicains que ce soit en 1870 de rejoindre le régime qu'il a rejoint plus tôt lui.
Exactement. Et lorsqu'il fait son grand discours de politique générale le 10 janvier 1870, Gambetta lui réplique: vous n'êtes qu'un pont entre la République du passé et la République à venir. Donc c'est signifié en fait à Ollivier qui lui tend la main, qui tend la main à l'opposition républicaine. Jamais.
Oui, et donc à empêcher toute tentative de rapprochement tout de même jusqu'au bout avec ce régime honni. Parce que effectivement, lui, il est passé au-dessus de la macule originelle dont on parlait tout à l'heure, mais tous les autres ne l'ont pas fait. Ceux qui sont en exil et beaucoup d'autres ne l'ont pas rejoint, ce
Alors,
régime.
Alors, pas tous les autres, je nuancerai quand même, parce que vous avez des républicains plus modérés. Un ami de jeunesse qui était député également d'Émile Ollivier, qui s'appelle Ernest Picard, qui va réfléchir, et en particulier qui va réfléchir autour du plébiscite du 8 mai 70. C'est le plébiscite qui libéralise le régime, qui donne une nouvelle constitution à ce régime. Et Ernest Picard va opérer un rapprochement du régime à ce moment-là. Il va fonder une tendance qu'on appelle la gauche ouverte. Donc vous voyez, il y a une partie des républicains, certes réduite.
Et certes très tardive.
Et tardive.
Et très tardive. Tout de même, Jean-Claude Dion, cette dimension effectivement où il se fait attaquer, Émile Ollivier, par son ami de l'époque, Jules Favre, qui lui dit il faut qu'on nous dise comment on a abandonné ses anciennes opinions en proposant aujourd'hui ce qui les contredit absolument. Ça, c'est en 1864. Et toutes les années qui vont suivre jusqu'à la prise de pouvoir et l'arrivée à la tête du gouvernement, il n'est quand même pas facile effectivement de faire ce chemin-là et de ne pas apparaître comme un traître à la cause que l'on est censé défendre, Jean-Claude Dion.
Oui, c'est d'autant plus difficile que, et ça on l'a peut-être un peu oublié, cette fin de Second Empire est une période extrêmement troublée aussi socialement, à partir de notamment donc de 1868 et de la nouvelle loi sur la presse qui va permettre vraiment à une presse d'opposition, celle notamment du rappel des fils de Victor Hugo et bien sûr la lanterne de Rochefort de s'exprimer, avec aussi beaucoup de tensions sociales, le droit de grève est massivement utilisé, avec d'énormes soucis internationaux, puisqu'effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la politique étrangère du régime, qui d'abord a été quand même un remarquable succès, le congrès de Paris, c'est quand même le fait d'effacer le congrès de Vienne 50 ans plus tôt, et donc en 1856, la France est redevenue le leader en Europe, mais après les choses se gâtent et Napoléon III ne maîtrise pas du tout ce qui se passe en Allemagne. C'est vrai qu'il a face à lui Bismarck, qui est quand même redoutablement doué, donc on a un contexte extrêmement dur, et donc ces éléments de politique et de ralliement de certains républicains, en tout cas d'expérimentation de l'empire libéral, se font dans ce contexte social où on a le sentiment, même pendant l'Expo universelle, que le régime est à bout, qu'il va s'arrêter, avec la montée en puissance éventuelle du prince impérial et donc du fait de passer la main. Donc là, on a un contexte politique que Eric connaît encore mieux que moi, mais qui est très très compliqué.
Eric Anceau.
Et la crise économique qui s'ajoute à tout ce que vient de dire Jean-Claude, puisque vous avez un retournement de conjoncture au milieu des années 1860, lié en grande partie à la guerre de sécession et la pénurie de coton, en fait, et une véritable récession à partir de l'année 1867, la faillite du crédit immobilier des frères Pereire. Donc, si vous voulez, beaucoup de chômage, et ça s'ajoute à ce qu'on vient de dire, ça jette les ouvriers dans la rue.
Oui, mais donc, tout de même, on se demande si ce Napoléon III, dont certains veulent la réhabilitation. Je rappelle que le moment où on a parlé de réhabilitation de Napoléon III, bien avant, je pense, le travail qui avait été mené par Philippe Séguin sur lui, mais c'était dans les années 1990 ou un numéro de l'histoire d'ailleurs, à la fin des années 1997, je crois, s'appelait « Faut-il réhabiliter Napoléon III ?». On se demande tout de même s'il a vraiment un sens politique aigu, ce que disait en 1864 Émile Ollivier, qui deviendra le chef de son gouvernement, c'est « je ne dis jamais tout ou rien, maxime factieuse et redoutable ». Est-ce qu'il comprend si bien le pays, un pays qui est quand même, comme l'a dit Sudhir Hazare-Singh, que vous avez cité dans un livre récent, qui aime les idées? Or lui, il n'aime pas trop les idées. En tout cas, il n'aime pas les idées qui ne s'appliquent pas en pratique. Ça n'est pas un théoricien. Il élabore des théories en les bricolant d'une certaine façon, mais il n'aime pas véritablement le débat d'idées. Et ce débat d'idées, c'est tout de même ce qui fait, depuis la Révolution française au moins, et peut-être même auparavant, une singularité française, Éric Anceau.
Alors Napoléon III, c'est un socle d'idées vraiment fondamental, puisé pour en grande partie dans le mémorial de Sainte-Hélène, hein, paru au lendemain de la mort de son oncle, avec son entourage. Il faut citer le nom de Persigny, qui est l'un de ses conseillers politiques. Donc je serai moins sévère que vous, hein, c'est le véritable inventeur du bonapartisme. Donc il y a un fond doctrinaire absolument là. Mais en revanche, c'est aussi, vous l'avez souligné, un grand pragmatique. C'est quelqu'un qui admire beaucoup l'Angleterre et la capacité qu'ont les Anglais justement à sentir le fil des évolutions, pour les épouser, pour les accompagner. Donc, Napoléon III, c'est aussi ça. Alors, je serai aussi moins sévère sur le fait qu'il a le nez dans le guidon et il ne serait pas un visionnaire. Il est un visionnaire par certains côtés. Regardez, par exemple, la politique des nationalités. Mais oui, c'est là où le bas blesse, c'est que...
Ou la politique arabe de la France.
Ou la politique arabe de la France, le royaume arabe. L'idée d'associer, en fait, les Arabes et de ne pas chercher à les assimiler, ce qui était la politique antérieure, la politique en particulier de la Deuxième République. Donc, il voit loin, mais alors le problème, c'est qu'il est confronté à la réalité. Et il a face à lui des personnalités comme Bismarck, comme Gambetta, comme Jules Ferry,
Victor Hugo,
et c'est la renaissance d'un républicanisme, cette fois-ci positiviste, donc très ancré dans les faits concrets, et c'est le choc des réalités.
On voit bien quand même que tous nos débats tournent notamment autour de la personnalité de Napoléon III, et là je parle à côté de son biographe, qui est quand même extrêmement complexe. On a une myriade de portraits par les contemporains, mais qui tous butent un peu contre cet aspect un peu sphinx. Hein. D'ailleurs, le terme lui a été appliqué.
Par Bismarck.
Ouais, exactement. Et donc, on a quand même face à nous un très grand politique qui, c'est vrai, à un moment, va peut-être un peu s'en mêler dans ce qu'il fait, mais qui, par exemple, dans sa conquête du pouvoir, avec, il faut le dire, un cynisme absolu, a réussi quand même quelque chose de complètement extraordinaire, de conquérir le pouvoir en débarquant en France très rapidement. Et donc, je pense que c'est vraiment cette personnalité qui suscite parfois des volontés de réhabilitation ou parfois des détestations très fortes et qui continue à susciter l'interrogation et le mystère un siècle plus tard.
I'm
un extrait de l'hymne Napoléon III concocté pendant l'exposition universelle. Alors si on continue donc sur ce Second Empire, sur le type de régime qu'il a instauré et comment ce régime a évolué, Éric Anceau, on voit bien effectivement qu'il y a des façons de voir ce Second Empire, et je citais tout à l'heure Philippe Séguin, avec des volontés de réhabilitation du personnage. On ne s'engage pas innocemment sur un sujet comme celui-ci, comme on s'engage pas innocemment sur un sujet comme celui de Napoléon Ier. On sait combien ces deux règnes ont été des règnes qui sont à la fois fascinants pour certains, mais aussi des règnes repoussoirs. Et donc, quand on devient historien de cette période-là, il y a quelque chose qui tient du regard que l'on porte sur la façon de gérer le pays, de regarder cela, Éric Anceau.
Non, pas vraiment. Pour tout vous avouer, vous me tendez une perche sur mon expérience personnelle. En fait, c'est une affaire d'opportunité. Au moment où je me suis lancé dans les études sur le Second Empire, nous étions à la fin des années 80, au début des années 90.
Vous voulez dire qu'il n'y avait personne dessus ?
Je ne dirais pas ça, j'aurais pas cette prétention. Simplement, effectivement, il y avait quand même un relatif vide historiographique. Et donc, c'était l'idée, avec Jean Tullard, qui est mon maître, d'essayer de combler modestement, dans un domaine qui était celui de l'histoire politique et sociale, cette lacune.
Oui, mais néanmoins, quand on a Jean Tullard pour maître, on a quelqu'un qui, d'une certaine façon, jette un regard relativement bienveillant sur la famille des Bonaparte, en l'occurrence, que ça soit le premier ou le troisième.
Ah, détrompez-vous. Alors là, un scoop peut-être pour nos auditeurs. Jean Tullard, j'espère qu'il ne voudra pas le dévoiler, n'est pas du tout un admirateur de Napoléon.
Ah oui.
Même s'il a fait toute sa carrière autour de Napoléon. Ah non, il est extrêmement critique.
Et puis, tout de même, ce qui est intéressant, c'est, en citant effectivement Frédéric Bluche, c'est de s'intéresser à un moment de bascule politique aussi. Éric Anceau, un régime qui se voulait progressiste, mais qui n'a pas compris qu'autour de lui, il y avait plus progressiste que lui, qui était exactement en train de se mettre en place le socialisme et tout un tas d'autres idées qui était peut-être plus attirante et plus rapidement attirante pour une grande partie des Français de l'époque.
Alors, Frédéric Bluche considère que l'Empire libéral est voué à l'échec, justement, parce que, comme vous le soulignez très bien, il y a plus progressiste que lui dans tous les domaines, social, économique et en particulier politique. Mais beaucoup d'autres historiens, mais également des politiques, je pense par exemple à Marcel Morabito, Serge Bernstein, dans son dictionnaire de la démocratie libérale, souligne que l'expérience, justement, de l'Empire libéral, il ne faut pas injurier l'histoire, aurait pu, hein, j'utilise un conditionnel, à réussir si la guerre de 1870, faute énorme, n'était pas passé par là. Je me permettrai de rappeler que vous avez des élections, et cette fois-ci libres, au lendemain du plébiscite, et on voit toute une masse de libéraux, anciens orléanistes, légitimistes, républicains, très modérés, peu nombreux, je le concède, se rallier au régime.
Et une des questions qu'on se pose, Jean-Claude Dion, quand on s'intéresse à la production d'écrits, production théâtrale, production de spectacles dans cette période-là, et vous nous citiez tout à l'heure Offenbach, c'est de se demander si, au bout du compte, ce régime était un régime qui faisait de la morale, et d'une certaine morale chrétienne, son adjoint et son guide, ou si c'est un régime, comme d'autres l'ont marqué, qui est un régime de débauche, qui laisse faire à peu près ce que l'on veut, et qui même valorise cette débauche qui est très loin de la morale traditionnelle. Et une des questions, c'est cette ambiguïté de cette production savante et culturelle de ces années-là, entre 1851 et 1870.
Alors précisément, le fait qu'il y ait ces deux visions montre bien qu'il y a un problème et qu'effectivement, si le régime avait été ce paragon de vertu qu'il a voulu être à un moment donné...
Il a voulu l'être, tout de même.
Il a voulu l'être,
oui. Il y a devoir de l'État de moraliser le théâtre au nom de la société afin de moraliser la société par le théâtre.
Vous citez Valesky, mais effectivement, en même temps, vous avez Morny qui va de son chef et contre l'avis des censures, de la censure dramatique qui est sous ses ordres, autoriser La Dame aux Camélias, qui est en plus la pièce d'où d'Alexandre Dumas fils, donc 1852, d'où va sortir pratiquement tout le répertoire de la seconde moitié du siècle. Donc effectivement, on a un régime qui affiche certaines volontés assez sévères, mais qui en même temps ne va pas jusqu'au bout des choses. Et ce qu'on citait tout à l'heure, le décret sur la liberté des théâtres va dans le même sens, c'est-à-dire c'est au public de juger maintenant. maintenant. On peut aussi parler de quelque chose qui d'ailleurs est très présent dans l'exposition du musée d'Orsay et présenté de façon remarquable, qui est le musée des qui est le salon des refusés en 63. Et au musée d'Orsay, vous avez côte à côte l'étoile du salon officiel et celle du salon des refusés. Bah, Napoléon III, voyant qu'une partie d'étoile était refusée par le jury, va aller contre l'Académie des Beaux-Arts, qui normalement a la compétence officielle et technique, et va permettre au public de se faire son idée. C'est ce qui est écrit dans Moniteur universel.
Est-ce que ça n'est pas aussi un des problèmes pour un régime comme celui-ci que de faire face à l'élargissement du public potentiel, des gens qui sont cultivés, de la culture générale, qui n'est plus une culture d'élite, mais qui devient une culture beaucoup plus élargie par les expositions universelles, par les grandes expositions d'art dont vous parlez, par les théâtres et leurs succès, les opérettes, etc., etc., et qui tire les bénéfices de quelque chose qui remonte plus loin, la Révolution française, mais aussi la période de la Restauration et de Louis-Philippe, donc où la lecture, les écoles, la mise en place par Guizot d'un certain type d'école a permis à un public plus large d'acquérir un savoir et une connaissance qui lui permettent d'être plus critique par rapport au régime en place.
Oui, mais précisément, le régime a cherché à s'adapter à cet élargissement du public, encore une fois, parce qu'il était basé sur le suffrage universel et qu'il voulait vraiment s'adresser au plus grand nombre. Et on en a un exemple par rapport à quelque chose, un domaine qu'on n'a pas encore cité, qui est le monde des musées. Et là, je fais référence à la magnifique thèse d'Arnaud Bertinet qui a été publiée il y a peu. C'est sous le Second Empire que le musée du Louvre, par exemple, devient vraiment un musée fréquenté par le grand public, parce qu'il ouvre pour la première fois tous les jours. Un certain nombre d'autres musées sont créés. On peut penser au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye, et il faudrait dire aussi un mot de l'archéologie, parce qu'on a un souverain qui se passionne pour Jules César et Vercingétorix, et qui d'ailleurs quand même va écrire une histoire de Jules César qui, de l'avis des spécialistes, n'est pas mauvaise du tout. Il l'a d'ailleurs écrit avec d'autres, bien évidemment, mais il s'y est intéressé directement. Donc le régime, on parlait des cafés-concerts, le régime va autoriser le théâtre dans les cafés-concerts, donc le régime cherche quand même, finalement, avec une assez grande ouverture d'esprit par rapport à ça, et avec bien sûr des arrière-pensées politiques, mais à accompagner cette culture de masse qui se met en place.
Et pas simplement pour favoriser le divertissement, alors, la jouissance, le délassement, c'est-à-dire pour d'une certaine façon donner de l'opium au peuple pour qu'il ne se révolte pas, parce que c'est aussi...
C'est une lecture qu'on peut faire, mais en même temps, quand vous autorisez par exemple la Grande Duchesse de Gerolstein, même si les censeurs ont rajouté deux Gerolstein pour que ça apparaisse fantaisiste par allusion au mystère de Paris d'Eugène Sue, vous autorisez quand même sans doute la pièce la plus antimilitariste de tout le répertoire du 19e siècle.
Et
donc de ce point de vue-là, c'est raté.
C'est à cette époque-là que César Daly dit quand même que la gare, c'est l'effort et la fatigue, et le théâtre, c'est la jouissance et le délassement, tout de même. Il y a aussi cette dimension.
Je ne saurais rien rajouter de mieux.
Éric Grosso.
Et Victor Duruy, qui est en instruction publique, ne l'oublions pas.
Bien
lui
sûr.
Aussi ancien républicain. Donc vous voyez, il y a cette volonté quand même de Napoléon III de donner au peuple des armes pour se frotter à la culture.
Mais tout de même, cette dimension de régulière, pourrait-on dire, de réhabilitation de la personne et du régime de Napoléon III et de ce Second Empire, que dit-elle d'aujourd'hui d'une certaine façon? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment pour se dire qu'il faut aller au-delà de la légende noire? Et vous qui travaillez sur Émile Ollivier, donc le républicain de service à la fin du régime, c'est la légende noire dans la légende noire. C'est celui qui, d'une certaine façon, est encore plus noir que les autres, puisqu'il est condamné par les bonapartistes ultra et il est condamné aussi par les républicains qui étaient ses amis auparavant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette volonté régulière d'en parler, de se dire il faut faire quelque chose sur ce régime qui a disparu des mémoires, parce que c'est quand même le cas souvent.
Alors je n'aime pas trop le terme de réhabilitation parce qu'il est très partisan, je préfère le terme de réévaluation, c'est-à-dire voir qu'il y a, et on les a assez soulignés aujourd'hui, les côtés noirs, hein, le coup d'État, la pression politique et autres, et à côté des aspects plus positifs, le développement économique du pays, la fibre sociale de l'empereur, le développement, les prémices d'une culture de masse. Alors effectivement, il y a les deux côtés. Aujourd'hui, c'est la tendance historiographique d'essayer peut-être de mettre l'accent sur ces côtés pour rééquilibrer les choses. Un petit mot quand même sur Émile Ollivier, parce que c'est effectivement une de mes marottes, et vous l'avez très très bien souligné. Le pauvre, on s'est jeté sur lui parce que c'est l'homme du cœur léger, celui qui aurait... je mets ça entre guillemets, déclarer la guerre à la Prusse, mais également du côté des bonapartistes.
Avec le cœur léger.
Il y a cette formule absolument terrible d'Édouard Boinvilliers, un conseiller d'État ultra bonapartiste, qui dira « Le Second Empire s'est arrêté le 2 janvier 70 », c'est-à-dire au moment où Émile Ollivier arrive au pouvoir.
Jean-Claude Dion.
Moi aussi, je suis contre ce terme de réhabilitation parce que je pense que l'historien n'a pas à se transformer en justicier
d'un côté
ou de l'autre. Je crois qu'en fait, si effectivement, du côté universitaire, des préventions peuvent exister encore et le fait que manque un certain nombre de travaux en est bien la preuve, dans l'opinion publique, je suis pas sûr que le régime soit aussi oublié et impopulaire. Au contraire, bien évidemment, Eric comme moi, on a l'occasion de faire des conférences à droite à gauche. Il y a, et puis aussi parce que bien évidemment, un couple impérial, c'est plus facile comme et puis tout cet aspect de fête impériale, de glamour, de faste et de
fête impériale d'ailleurs qui est théorisée dès le moment du Second Empire soi-même, c'est-à-dire que le terme de fête impériale c'est juste après et utilisé par les premiers mémorialistes de cette période-là.
Frédéric Lelier, 1908,
voilà. 1908. Alors, un peu plus tard.
Mais effectivement, on peut dire que l'idée est là. Mais par exemple, l'utilisation de Napoléon III, de la photo par Napoléon III qui a été magnifiquement mis en étudié par Sylvie Obnas il y a quelques années dans une expo à la BNF, montre qu'effectivement il y a cette capacité à offrir au plus grand nombre un récit, une façon de se reconnaître, et ça je pense que de nos jours encore, et le succès de l'exposition du Musée d'Orsay le montre, en plus elle joue vraiment sur ce qu'il y a de plus fasteux, et donc là c'est un peu la facilité, elle va vers vraiment ce qui attire le plus, mais ça marche encore, donc est-ce qu'il faut réhabiliter pour le grand public ce Second Empire? J'en suis pas sûr, je crois que l'histoire est déjà passée et gagnée.
Sans vouloir nous dire ce que vous allez ce dont vous allez débattre les 24 et 25 novembre prochains au Musée d'Orsay autour de cette exposition. Quel va être le thème de ces nouveaux regards, justement, très brièvement, dans le colloque que vous organisez, Jean-Claude Dion?
Alors, on a cherché justement à insister sur les aspects les plus neufs de l'historiographie du Second Empire. Et par exemple, vous voyez, on a les mêmes idées. On fait intervenir Corinne Legoix sur le bal, parce que je pense que le bal, c'est une façon d'entrer dans la société magnifique. Et puis, on a aussi Flaubert comme guide, puisque l'expo s'appelle en fait « Sans blague aucune, c'était splendide, regard sous le Second Empire », et c'est une citation de Flaubert.
Merci, et vous rappelez la personnalité de Corinne Legoix, qui était donc l'invitée principale du documentaire qui a été réalisé dans la Fabrique de l'Histoire mardi, et que je salue, donc le travail d'Anaïs Quien et de Françoise Camard, que vous pouvez réécouter comme toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire sur notre site. Merci à vous Eric Canceau, je rappelle qu'on attend donc votre travail sur l'Empire libéral, c'est pour bientôt, c'est chez qui? C'est en décembre
Espem édition.
Et puis Jean-Claude Dion, on peut vous lire dans tout un tas d'ouvrages sur le théâtre, sur les spectacles.
Et je fais une conférence sur théâtre et monde galant, vous voyez, on n'en sort pas, samedi prochain au Musée d'Orsay.
Merci, et donc vous êtes également dans le catalogue spectaculaire Second Empire. Merci encore. Et comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Jacques Zuber était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.